Claude Roche de nous apporter la parole de Dieu. Bienvenue Claude, tu es un peu chez toi, hein? Tu es dans ta famille, dans tous les sens du terme.
C'est bien vrai. Bonjour à chacun. Je voudrais laisser à mon épouse le soin de vous dire bonjour.
Bonjour à chacun de vous. Bien heureuse d'être parmi vous. J'espère que Dieu va nous faire du bien ensemble ce matin et que nous allons repartir richement bénis. C'est tout ce que je souhaite. Que Dieu nous bénisse ensemble.
Voilà, alors sans plus tarder, nous allons donc partager ce moment devant la parole. Et le titre de mon message, c'est « Être de vrais disciples ». Tout à l'heure, dans la louange, le frère disait au Seigneur que notre service soit efficace le mieux possible. Et c'est possible d'être un bon serviteur du Seigneur en étant un vrai disciple. Je vais introduire ce thème en lisant avec vous dans Actes des Apôtres, au chapitre 11, les versets 25 et 26. Il est écrit, Actes 11, versets 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors que ces deux personnes, ces deux serviteurs de Dieu, Barnabas et Saul, soient comme pour nous des modèles. Barnabas, le fils d'exhortation, lui qui savait que cet homme était appelé, mais vu son passé, il n'était pas reconnu. Il ira le chercher et on sait après comment il vous formait une équipe. Mais là, dans ce passage que nous avons lu, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir qu'ils vont passer du temps. Ils vont passer du temps à enseigner et un miracle va se passer dans les cœurs puisque les personnes qui ont été enseignées vont être appelées des chrétiens. Alors ce mot, c'est la première fois qu'il est prononcé, mais il a toute une signification puisque Antioche, c'était une ville commerciale et il y avait des maîtres et des esclaves. Et pourquoi a-t-on appelé ces personnes des chrétiens ? Parce qu'ils faisaient comme Christ. Alors, ça paraissait comme un titre ironique, mais au fond, nous sommes tous appelés à être de vrais chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui veulent suivre Christ. Leur mode de vie a changé, je ne sais pas, la technique, on ne me connaît pas trop, mais il ne me suit pas beaucoup. Je suis déjà assez avancé par rapport à lui. Donc voilà, ces disciples sont devenus des chrétiens et au fait, le mot disciple veut dire un élève, celui qui reçoit un enseignement. Puisse ce matin Dieu nous faire la grâce en écoutant ce message de comprendre et de devenir de vrais disciples. Et pour vous aider, je vais voir quatre points avec vous pour devenir de vrais disciples. Le premier, c'est qu'il faut que nous puissions nous attacher à l'enseignement, nous attacher à la personne de Jésus. Et pour nous attacher à l'enseignement, nous réalisons que pour Jésus, la chose la plus importante dans son ministère sur la terre, c'était d'enseigner, de prendre le temps. Ma nourriture, alors que les disciples étaient allés acheter à manger, ils viennent et ils trouvent Jésus en train de parler à la Samaritaine. Et Jésus leur dit, mais non, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et dans Matthieu, chapitre 5, le voici qui prend du temps pour enseigner à ces hommes qu'il a choisis. On voit dans Matthieu 5, verset 1er, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit ce que nous appelons le sermon sur la montagne. » Matthieu 5, 6 et 7. Quel enseignement Jésus va-t-il donner à ses disciples? Et dans la Bible, on voit souvent ces deux verbes utilisés. Soit Jésus enseignait, donc, il approfondissait la connaissance de ces personnes qui s'approchaient de lui, ou soit Jésus prêchait. Il appelait au salut, il montrait la voie de la repentance à ces hommes, à ces personnes qu'il rencontrait. Je veux insister ce matin sur la qualité de l'enseignement, puisque la Bible nous dit dans Jean, chapitre 1er, le verset 17, « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » On a vraiment un enseignement différent. Jésus dit, on retrouve cette expression dans le sermon sur la montagne. Il a été dit, c'était la loi, mais moi je vous dis que. Et l'enseignement de Jésus étonnait la foule. On le voyait parler avec autorité. Il ne parlait pas comme les scribes, comme les pharisiens, mais son message troublait les cœurs. On peut annoncer l'évangile et cet évangile, si il n'est pas porté sous l'onction, ne produit aucun effet. La façon de parler des pharisiens, des scribes, ne transformait pas les vies. Mais quand Jésus parlait, les gens étaient transformés. Et c'est pour cela que je veux insister sur la qualité de l'enseignement. Jésus a apporté une parole de grâce. D'ailleurs, quand il ouvre le rouleau dans le temple, dans Luc chapitre 4, versets 17 et 18, il dit « L'onction du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint et il donne sa mission. » Et c'est vrai qu'il est venu apporter une parole de grâce, une parole pour sauver les hommes. Il est aussi écrit, et là nous devons comprendre l'attachement que nous devons au Seigneur dans Matthieu 16. Matthieu, chapitre 16, le verset 24. Il est écrit « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On voit dans ce verset tout ce qui nous est demandé, le renoncement à soi-même. On a nos valeurs, nos principes, on est venu au Seigneur, on était formaté d'une certaine manière, mais on comprend que être à Christ, c'est avoir un cœur nouveau, c'est vivre une vie nouvelle, c'est prendre une dimension de l'esprit. Et c'est pour cela que Jésus nous demande de renoncer à notre intellect, renoncer à nos valeurs, renoncer aux principes que nous avons acquis dans ce monde pour vraiment adopter les principes du royaume. Et ce matin, je prie le Seigneur, si vous voulez devenir de vrais disciples, que votre cœur change et que votre façon de voir les choses soit conforme à la parole, au principe de la grâce. Pas au principe de la loi, pas au principe de ce monde laïque qu'on veut nous dire. Ce monde est laïque, mais nous sommes des enfants de Dieu et nous voulons rester dans notre attachement à lui. Nous voulons renoncer à toutes ces choses qui, pourtant dans ce monde, présentent beaucoup de valeur, mais pour le royaume de Dieu, n'ont pas beaucoup de signification. Alors ce matin, que Dieu vous donne de vous consacrer, de vous attacher à lui. C'est le premier point pour devenir de vrais disciples. Le deuxième point, que nous ayons un comportement qui soit conforme au principe du royaume. Je ne serai pas long dans les textes que je vais choisir, mais je vais vous lire Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Il est écrit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. » Il y a, dans ce passage qui résume beaucoup la pensée de l'apôtre Paul, « Nous étions autrefois ténèbres, mais Dieu nous a appelés dans la grâce et nous sommes devenus lumière. Et puisque nous sommes devenus lumière, puisque nous sommes le sel, puisque nous devons éclairer les autres qui sont dans les ténèbres, eh bien, nous réalisons que nous sommes appelés, nous sommes choisis par Dieu, et Dieu veut que nous marchions en nouveauté de vie. Et c'est pour cela, l'apôtre Paul dit souvent dans ses épîtres, « Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Savons-nous que nous sommes ceux qui offrons le culte, et nous venons de le faire par la louange, nous offrons le culte à Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes appelés à offrir des victimes spirituelles à Dieu. Et ce matin et chaque jour de notre vie, nous comprenons notre mission. C'est pourquoi Paul insiste pour que nous puissions marcher. Et là, c'est mon propos ce matin, que nous puissions marcher d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue. Lorsque Paul a fini d'exposer toute la doctrine dans l'Épître aux Romains, les 11 premiers chapitres, il commence au 12e chapitre pour commencer à être pratique. Il nous dit, soyez renouvelés dans votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. On sent là qu'il ne suffit pas simplement d'entendre, d'écouter, mais il faut aussi que dans la vie pratique, on puisse mettre en pratique ce que le Seigneur nous demandait. C'est pourquoi ici, dans ce passage que nous avons lu, il y a 6 cadres fondamentaux pour nous chrétiens qui nous unissent. J'ai entendu tout à l'heure un frère parlant de l'unité de l'Église, mais il y a là matière à réfléchir pour nous qui voulons être unis, unis spirituellement. Je ne sais pas si vous avez noté ces 7 vérités qui sont là. Je vais vous les rappeler. Ils sont à partir du verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, verset 4 toujours, une seule espérance, verset 5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, verset 7, verset 6, un seul Dieu et Père. Voici ces 6 vérités qui font de nous vraiment des enfants de Dieu et qui font que nous pouvons être unis alors que d'autres pourraient se prétendre de mouvements religieux et pourraient vers l'unité avec nous, mais ont-ils vraiment ces 6 unités fondamentales, ces 6 choses qui les réunissent? Voici les bases du christianisme, un seul Père, un seul Fils, un seul Seigneur. On a là la Trinité, les 3 personnes de la divinité, un Père, un Fils et le seul Esprit. On a une seule espérance, on a un seul baptême, une seule foi et nous formons, et j'insiste, un même corps. Que Dieu nous donne de comprendre ces choses pour que nous puissions devenir ses vrais disciples et que par notre marche spirituelle, eh bien, nous puissions plaire à Dieu. Jésus a dit ceci et on voit dans la Bible l'importance de l'amour. Voyez quand vous lisez 1 Corinthiens 12, vous avez les dons. Quand vous lisez 1 Corinthiens 14, vous avez la pratique des dons dans l'Église. La prophétie, la parole en langue, le don de parler en langue et le don d'interprétation. Mais entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il y a quoi? Il y a le chapitre de l'amour. Et quelqu'un a dit qu'on ne peut pas passer du chapitre 12 au chapitre 14, c'est vrai, dans le fond, sans passer par le chapitre 13. Et le chapitre 13 nous dit que pour exercer les dons spirituels, il faut qu'il y ait de l'amour. Jésus a dit dans Jean, chapitre 13, le verset 35, « À ceci, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » Je crois que c'est la chose la plus difficile qu'il y a à faire, de s'aimer. On en parle, on le dit, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Parce que nous sommes humains, nous avons plutôt tendance à aller vers ceux qui nous sont familiers, ceux avec lesquels nous avons de l'affinité, mais ce n'est pas très évident d'aimer comme le Seigneur nous demande. Et l'on sait la dimension de l'amour que Jésus nous demande. Puisque lui-même, il nous a montré, il nous s'est donné un exemple. Son amour a fait qu'il a donné sa vie pour nous. Et lui, il nous demande de nous aimer jusqu'à donner notre vie pour notre prochain. Et là, je sais que ce n'est pas évident. On l'entend, on le comprend avec son esprit, mais le vivre avec nos pensées, avec notre cœur, avec nos sentiments, nous n'y arriverons pas toujours. Et ce matin, je prie Dieu de nous apprendre à aimer, de nous apprendre à vivre cette dimension de relation fraternelle qui dépasse les cadres de tout ce que nous pourrons connaître, mais que nous puissions rentrer dans cet amour divin, être remplis de cet amour divin pour pouvoir vivre et nous aimer les uns les autres. Dans la Bible, il y a souvent ces principes les uns les autres. Je ne sais pas si vous les connaissez, il y en a beaucoup. On pourrait peut-être citer presque une vingtaine. Je commence et vous allez terminer. Aimez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Saluez-vous les uns les autres. Et vous m'ajoutez quoi? Supportez-vous les uns les autres. Merci. Ensuite, pardonnez-vous les uns les autres. Ça va? Vous avez fini? Il n'y a plus rien d'autre? Mais accueillez-vous les uns les autres. Aidez-vous. Enfin, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et on verra que dans la Bible, il y a souvent, Paul parle beaucoup dans Romains, dans ses épîtres. Il parle beaucoup de ces principes les uns les autres. Et c'est beau de les mettre en pratique. Dans les psaumes, on aime ce psaume-là. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Avons-nous cet esprit, l'esprit de Dieu au fond de nous, qui fait que, et le frère le disait tout à l'heure, je suis au milieu de vous, mais j'ai comme l'impression que je vous connais. J'ai comme l'impression qu'on est, on est ensemble depuis longtemps, tout simplement parce qu'on est de la même famille. On est de la famille de Dieu. Alléluia! Et c'est ce qui fait que lorsqu'on voyage, qu'on a ici ou là, on rentre dans la famille de Dieu, eh bien, tout de suite, on est à l'aise parce que, eh bien, vous savez me supporter. Pas vrai? Supportez-vous, aimez-vous. Ces principes, quand on les met en pratique, eh bien, ça permet à l'autre d'être à l'aise. Le troisième point sur lequel je voudrais que nous puissions être de vrais disciples, c'est surtout en poursuivant l'œuvre du maître. Vous voyez la technique depuis Jésus qui n'a pas changé et que nous ne devons pas changer. Jésus sait qu'il est venu pour un temps sur la terre. Il va former 12 apôtres. Bien sûr, il y a un qui va partir à côté. Il va en laisser 11. Et vous savez que dans la chambre haute, on va choisir le remplaçant de Judas. Jésus a enseigné et les 12 vont commencer et eux vont à leur tour faire des disciples. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ce principe de formation perdure. Et c'est à nous, justement, de faire à nouveau des disciples pour que la parole de Dieu puisse passer de génération en génération. En tout cas, même si nous sommes paresseux, mais Dieu veille sur sa parole de manière à ce que cette parole perdure, qu'elle passe de génération en génération. Jésus, sachant qu'il a mis en place les bases de l'Église, Jésus va laisser 2 ordonnances. Nous en avons mis en pratique ce matin une première, c'est la Sainte Cène. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Matthieu 26, versets 26 à 28. Je vous lis. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et l'épître de Paul aux Corinthiens, il nous est demandé de pratiquer cette communion jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est une ordonnance que Jésus a laissée à l'Église. Et la deuxième ordonnance, c'est justement que nous fassions des nations des disciples. Matthieu, en les baptisant. Matthieu, la deuxième ordonnance, c'est le baptême. Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Il est écrit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On voit dans ce que Jésus laisse comme ordonnance, comme commandement à l'Église, qu'on va se rappeler, c'est lui la base de l'Église. Christ est la tête. Christ, c'est lui qui a fondé l'Église. C'est la pierre angulaire. Et quand on participe à la Sainte Cène, le pain représente son corps. Si nous sommes sauvés, c'est parce que Christ a acquis notre salut à la croix. Il a vaincu les dominations, il a vaincu les autorités, il les a livrées en spectacle. Et maintenant, nous pouvons dire que nous sommes libres. Paul s'écrit dans Romains au chapitre 7, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et il donne la réponse, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » Nous sommes délivrés, nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Et là, l'Église est fondée sur cette base de la crucifixion et de la résurrection. Et c'est pourquoi la Sainte Cène représente ce corps qui a été meurtri, ce corps qui a connu la souffrance, ce sang qui a coulé, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et Paul disait, je ne prêche que Christ crucifié et ressuscité. C'est la base de la foi. Et Jésus, lorsqu'il laisse ses emblèmes, lorsqu'il laisse son corps, le pain comme son corps, comme l'emblème de son corps, le fruit de la vigne comme l'emblème de son sang, il veut nous rappeler cette œuvre qui est la base de l'Église, cette fondation. Et Paul va dire, nous ne pouvons que construire sur cette fondation-là. Nous ne pouvons pas construire sur autre chose, sinon notre construction serait vaine. Et c'est pourquoi, dans ces ordonnances, nous comprenons la signification de la Sainte Seine, toute sa valeur. Nous ne nous approchons pas d'une manière indigne, parce que nous nous identifions à Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Et nous comprenons qu'à notre tour, ce que nous devons faire, c'est la grande mission de l'Église, répandre cette parole autour de nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et souvent, on voit l'Église qui est endormie, l'Église qui se contente d'un certain nombre de personnes sauvées. Mais si la totalité des païens n'est pas rentrée dans la grâce, Jésus ne reviendra pas. Et là, si nous voulons hâter le retour de Jésus, nous devons comprendre cette mission de l'Église. Le vrai disciple, c'est celui qui parle de la transformation de vie qu'il a connue en Jésus-Christ. Souvent, les chrétiens nous disent que c'est compliqué de témoigner. Mais moi, quand je regarde la Bible, et vous pouvez prendre un bel exemple, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Vous avez des gens qui ont rencontré Jésus. Ils ont un message tout simple. Venez voir celui que j'ai rencontré. La Samaritaine dit, ne serait-il pas le Christ ? Philippe est devant Nathanaël, il lui dit ces mots-là, viens et vois. Et l'on comprend, lorsqu'André va chercher son frère, il lui dit, viens voir, j'ai trouvé le Christ. Des fois, on croit que c'est compliqué de témoigner. C'est pas compliqué. Si l'on s'arrête simplement à parler de l'amour de Christ, à parler de cet homme qui peut transformer les vies, à parler de cet homme qui peut changer la destinée de nos jours. Et beaucoup sont dans des problèmes, dans des situations où ils ont besoin de rencontrer celui qui peut transformer leur vie. Et quelquefois, on a besoin de dire simplement un mot. Il y a des personnes qui ont témoigné, je me suis tourné vers le Seigneur simplement parce que quelqu'un m'a dit, Dieu t'aime. C'est compliqué, hein, ça, de dire Dieu t'aime. Uniquement ça, transformer la vie de quelqu'un. Alors, comprenons quand Jésus nous dit, voici la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est d'aller vers les perdus. La mission de l'Église, c'est d'aller vers ceux qui ne le connaissent pas et de leur dire, voici, Christ est mort pour toi. C'est à cause de toi, à cause de tes péchés. Et Dieu t'appelle à la repentance pour que des jours nouveaux se lèvent pour toi. Cette œuvre, nous devons la faire. Et Jésus insiste dans Jean au chapitre 15. Je ne lirai pas tout le chapitre. Je lirai que le verset 8 qui résume parfaitement la pensée de Jésus en nous disant que nous devons être les sarments, que lui est le cep. Il nous dit dans Jean 15, au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Voyez, si vous voulez être un disciple, il faut porter du fruit. Et Jésus le dit, « Voici comment mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, alors je pourrai dire de vous, vous êtes mes disciples. » Le quatrième point, pour être de vrais disciples, il ne suffit pas de se lever, de partir. Il faut recevoir la puissance qui nous permet d'être ses disciples. Jésus, le jour de l'ascension, sachant qu'il allait retourner dans la gloire de son Père, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 8, il va dire aux disciples, c'est vrai, je vous ai formé, mais ce n'est pas encore le moment. Et j'aime bien, nous qui sommes une église pentecôtiste, j'aime bien dire aux chrétiens, le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Il faut vraiment aspirer, il faut avoir soif du Saint-Esprit dans notre vie. Il ne faut pas croire qu'une fois qu'on est sauvé, on peut servir Dieu, le servir efficacement. Non, on ne peut pas le servir efficacement si le Saint-Esprit ne nous équipe pas. Regardez ce qui est dit dans Acte 1er, verset 8. Alors, si Jésus se trompe, qu'on le lui dise, mais je ne pense pas qu'il se trompe. Et si lui-même donne ce commandement, c'est parce qu'il sait que c'est vrai. Lui-même qui a été rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit, il peut dire aux disciples, alors qu'il va s'enlever, alors qu'il va aller vers son Père, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pour être mes témoins, il faut attendre que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. Ça voulait dire qu'il pouvait bien aller battre la moisson, mais le travail n'allait pas être fructueux. Et l'on voit dans le récit des Actes, au chapitre 2, 10 jours après l'ascension, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre. Et là, ils vont tous être remplis. Et l'on voit ce que Jésus, on a une vérification de ce que Jésus disait. Première réunion d'évangélisation de l'apôtre Pierre. 3000 personnes se convertissent. Et pourquoi? Parce que là, le feu de l'esprit est là et l'apôtre est en train de parler à la foule. Alors qu'au début, on rigolait, on pensait qu'ils étaient ivres. Mais là, on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose. Comment ces hommes sans instruction sont-ils en train de nous parler comme cela? Et la réaction, on sent, c'est pas simplement une émotion, mais c'est quelque chose qui vient du cœur. Quand ces hommes vont s'écrier, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons sauvés? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons transformés comme vous? On voit bien la l'onction de l'esprit dans une vie, comment ça peut changer un discours, comment ça peut mettre en valeur, eh bien, la puissance de la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 12, on a là les dons du Saint-Esprit. Je vous en parlais, j'ose pas vous dire qu'avez-vous reçu, je voudrais plutôt vous dire, vous avez reçu un don, maintenant, il faut que vous puissiez utiliser ce don pour glorifier le Seigneur, pour édifier l'Église. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, le verset 7. Je ne choisis pas de lire les dons, mais je choisis de vous convaincre que vous avez reçu quelque chose. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Est-ce que Dieu se trompe encore? Non. Je dis souvent aux chrétiens, et là j'ai souvent un visage interrogatif, savez-vous quel don vous avez reçu? On a une liste hein, que je ne pourrais pas développer ce matin, ce n'est pas l'occasion, mais qu'avez-vous reçu? Et certains sont dans l'ignorance. Or, la Bible nous dit à chacun. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On ne reçoit pas ce qu'on veut, c'est le Saint-Esprit qui donne, mais il donne à chacun. Jésus a dit, alors que l'on venait de fêter pendant une semaine, qu'on venait de boire, qu'on venait de se réjouir, dans Jean chapitre 7, le verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On voit qu'il y a des conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut aspirer, il faut avoir soif, il faut le désirer. Et si réellement on a soif, Dieu va descendre en nous par son esprit et nous rendre capables, nous équiper pour que notre service puisse porter du fruit. Je n'insiste pas sur tous les passages qui nous montrent les dons que nous recevons. J'aurais pu parler des dons ministères de Éphésiens. Chapitre 4, les pasteurs, docteurs, apôtres, prophètes. Mais je m'arrête sur quelque chose qui est plus accessible à notre vie. Dans Romains 12, versets 6 à 8, il est écrit. Romains, chapitre 12. Versets 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. On voit là des dons. Le Saint-Esprit nous équipe. Et ce matin, je désire ardemment que vous priez Dieu, et on prendra quelques minutes pour le faire, que vous priez Dieu pour qu'il vous équipe, pour que vous soyez vraiment remplis des dons de l'Esprit, que vous soyez utile à l'Église. C'est vrai que vous allez me dire, oui, mais je suis déjà impliqué dans un service, je travaille déjà dans l'Église, mais quand le Saint-Esprit lui-même vous équipe, vous donne la qualification, eh bien, combien l'Église peut être édifiée, peut grandir, peut profiter des dons que vous avez reçus. Il est écrit, donc, et c'est ma conclusion, dans Luc, chapitre 14, Luc chapitre 14, versets 26, 27 et 33. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, j'allais dire on termine par où on a commencé. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Que ces paroles vous soient comme un fardeau pour que vous puissiez réaliser l'attachement que le Seigneur nous demande. Comment nous devons lui être dévoués? Comment nous devons lui être attachés? Comment notre engagement doit être entier? Et prions maintenant pour que nous puissions devenir de vrais disciples. Des gens qui préfèrent, s'il y a des choix à faire dans notre vie, que nous puissions comprendre que même un mari, même une femme, même une mère, un père, ne peut pas nous empêcher de suivre notre engagement. Jésus ne nous demande pas de haïr, lui qui demande que nous puissions nous aimer les uns les autres. Mais il nous demande que le lien qui nous unisse à lui soit au-dessus du lien qui peut nous unir à un homme, à une femme, à même notre mari, à notre femme. Et nous devons aimer Dieu plus que les hommes. Et c'est pourquoi ce matin, nous réalisons que c'est une consécration. Nous devons tout donner. Notre cœur lui appartient. La Bible nous dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Et si nous lui appartenons, nous devons lui être attachés. Nous devons être consacrés. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il fasse de nous de vrais disciples. Alléluia. Je vais prier, après quoi on va prendre un cœur et je vais inviter des personnes qui désirent cette consécration, qui désirent être de vrais disciples, de se lever pour que le Seigneur puisse ce matin mettre son onction sur vos vies ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous réalisons sa profondeur. Nous réalisons l'implication qu'elle nous demande. Simplement de ne pas être des auditeurs, mais de vouloir être ses disciples, ses hommes, ses femmes qui, ô Dieu, veulent se consacrer, veulent te mettre à la première place, veulent faire de toi leur Seigneur. Merci pour ta parole qui nous montre l'attachement que nous devons avoir avec toi, Seigneur Dieu. Ce matin, je prie que nos cœurs soient transformés, que tu puisses illuminer l'intelligence de notre cœur pour que, ô Dieu, nous puissions sans hésiter, ô Seigneur, faire de toi notre maître, faire de toi notre Seigneur. Ô Seigneur, tu vois dans cette vie ce qui nous attache. Tu vois dans cette vie ce qui nous détourne de toi. Tu vois dans cette vie ce qui prend la place dans notre cœur. Mais ce matin, ô, tu nous appelles à nous consacrer. Tu nous appelles à être de vrais disciples. Tu nous appelles à un engagement entier, total envers toi. Alors, bénis nos cœurs ce matin et donne-nous de pouvoir faire ces choix, de pouvoir, ô Dieu, librement, ô, te donner la première place dans nos vies, de telle manière que tu sois glorifié par notre service. Nous te louons ce matin et nous nous engageons envers toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer.